VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Abidjan, midi à Libreville, bienvenue à notre journal. Le prix Nobel de la paix 2015 est attribué au Quartet pour le dialogue national en Tunisie pour sa contribution décisive à la construction d'une démocratie pluraliste à la suite de la révolution du jasmin de 2011, a annoncé aujourd'hui le comité Nobel norvégien. Ce quartet, composé de la Confédération syndicale UGTT, du patronat tunisien, de la Ligue tunisienne des droits de l'homme et de l'Ordre des avocats, a permis de sauver la transition démocratique alors que le pays était au bord de la guerre civile en raison d'assassinats politiques et de vastes troubles sociaux, a souligné le comité du Nobel. Afrique subsaharienne, en Guinée, incertitude à l'approche de l'élection présidentielle de dimanche, non seulement sur les chances de victoire du président sortant Alpha Condé au premier tour, mais aussi sur l'acceptation des résultats par l'opposition. Le point avec Idrissa Sédoudia.
La campagne est entrée dans sa dernière ligne droite avec les ultimes meetings de campagne des principaux candidats de retour dans la capitale après avoir bouclé leur tournée dans l'intérieur du pays, dont le chef de l'opposition, Selou Dalein Diallo. Selon l'AFP, M. Diallo a de nouveau exigé un report du scrutin pour permettre à des experts électoraux désignés par la communauté internationale de rectifier les listes électorales qu'il estime truquées en faveur du pouvoir, notamment par l'inscription de mineurs. On ne participera pas à une mascarade électorale, sinon on n'acceptera pas les résultats et je mobiliserai avec tous les autres candidats la population pour refuser, a assuré Selou Dalein Diallo. La campagne du président Condé s'est fixée l'objectif ambitieux sous le slogan « Un coup KO » de le faire réélire dès le premier tour. Des heurts ont opposé hier à Conakry ses partisans à ceux de M. Diallo. La police a usé de gaz lacrymogène pour les disperser. La CENI s'est dite prête pour le scrutin dimanche, tout en reconnaissant d'importantes disparités quant à l'avancement de la distribution des cartes d'électeurs.
Côte d'Ivoire, début aujourd'hui de la campagne pour la présidentielle du 25 octobre. Mais l'environnement politique est incertain, là aussi. À preuve, le candidat indépendant Amara Essi a suspendu sa candidature en parlant de mascarade électorale. Au micro d'Éric Manirakiza, l'analyse du docteur Christophe Kwame, un membre de la société civile ivoirienne.
Il y a quelques éléments qui peuvent entacher la crédibilité, comme la composition de la commission électorale indépendante, avec 4 membres de l'opposition et tout le reste des membres qui sont en faveur du président sortant. Nous avons le problème de la sécurité qui devrait être résolu avec une décision gouvernementale d'affecter 10 agents des forces de l'ordre à chaque candidat. Ce problème n'a pas encore pu être tranché, donc il subsiste encore des problèmes d'insécurité. Nous avons au niveau des bulletins, je veux dire de la technique même de comptage, de la technique même des éléments pour chaque candidat où il n'y a pas encore eu de discussion. Pour nous, pour moi, une élection doit être une socialisation entre le président sortant et les candidats de l'opposition.
Certains candidats ont préféré boycotter ces élections, donc faire la politique de la chaise vide. Quel est l'enjeu de ce scrutin, justement?
La chaise vide ne profite pas à ceux qui font la chaise vide. Le président sortant en a eu la meilleure expérience. Par contre, les enjeux aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire passe de 15 ans de crise à une élection avec un président sortant qui gagne ou qui perd, mais que tout le système administratif soit en place, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de crise post-électorale. Cela veut dire que les enjeux aujourd'hui seront le taux de participation. D'abord, avant le taux de participation, la diversité des candidats, parce qu'il y a un groupe qui veut boycotter. Donc, si la diversité et le nombre de candidats n'est pas excellent, cela va entacher la légitimité du futur président. Ensuite, le taux de participation, aujourd'hui, est l'un des plus grands enjeux. Et enfin, que la croissance économique ne soit pas entachée par une crise. Donc, ce serait intéressant que le leadership du président sortant s'exprime là maintenant pour lever les dernières barrières que l'opposition dans sa majorité souhaite. Il travaille pour les citoyens ivoiriens. Les opposants sont les citoyens.
Il y a apparemment beaucoup de dysfonctionnements, mais est-ce que ça pourrait, disons, provoquer ce que l'on a vu antérieurement, disons, des violences?
À la lecture de ce que nous observons sur le terrain, il y a moins de de risque qu'on atteigne ce niveau-là de risque-là. Parce que en même temps que l'opposition au dernier moment demande discussion, et il est de la responsabilité du président sortant de donner cette possibilité, cette ouverture et d'arriver à des élections apaisées, une des responsabilités que nous pointons du doigt l'opposition, c'est que l'opposition a laissé tout le processus et à la fin, l'opposition réclame. Mais deuxièmement, en dépit de tout, qu'ils aient raison ou pas, il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'un pays qui doit aspirer à sortir du cycle de crise.
Le docteur Christophe Kouamé, membre éminent de la société civile ivoirienne.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Rwanda, le Parti démocratique vert d'opposition débouté dans sa tentative d'empêcher une réforme constitutionnelle ouvrant la voie à un troisième mandat du président Paul Kagame en 2017. La haute cour rwandaise a rejeté sa requête en spécifiant qu'aucun article de la Constitution n'est immuable. Au micro de Timothée Donangmaï, l'analyse de Chika Kanyuri, éditeur et rédacteur en chef du magazine Transatlantique.
C'est pas étonnant, c'était prévisible, c'était écrit. La chose la plus surprenante qu'on ait d'ailleurs permis cette procédure, puisqu'on sait que, comme d'habitude, comme c'était dans les années 70 en Afrique, lors des partis uniques, on sait que les décisions, toute la mise en scène qui est faite ne vaut pas grand-chose. On sait que les décisions sont déjà prises. Mais on fait semblant de donner la parole au peuple pour essayer de voir, de faire semblant de donner quand même une procédure légale à des décisions qui sont déjà prises par le régime. Mais ce qui est quand même malheureux, c'est que quelqu'un comme Kagame, ça veut dire qu'il aurait pu au moins faire la même chose comme Poutine en Russie, c'est-à-dire qu'il aurait pu rester, c'est pas chef du parti, puis laisser quelqu'un pour respecter un peu des formes. Mais je pense qu'il y a probablement des gens extrémistes de son groupe qui ont voulu absolument qu'il garde toute la main ouvertement sur tout.
Qu'est-ce que l'échec de cette requête du Parti démocratique des Verts signifie pour l'avenir politique du Rwanda?
C'est clair, l'avenir politique du Rwanda est ce qu'il est de toutes les façons. On sait que M. Kagame, il sera là tant qu'il le voudra jusqu'à présent. Mais ce qu'on peut quand même retenir comme leçon, c'est que pour la première fois depuis 3 ou 4 ans, on sent que le groupe de son ethnie, c'est-à-dire les Tutsis, ont fini par reconnaître qu'ils ne sont plus unanimes comme ils l'ont été pendant presque 20 ans. Et donc, ils ont fini par comprendre que c'est une dictature et qu'il faut la traiter comme telle. Pendant longtemps, on s'est arrangé pour opposer les Hutus et les Tutsis. Mais aujourd'hui, les grands opposants au régime de Kagame sont des Tutsis, dont certains ont été même assassinés à l'étranger. Et donc, ça veut dire que finalement, ils ont fini par comprendre que ce régime n'est pas démocratique. Mais pendant longtemps, on lui a donné cette formule-là qui faisait que au moins on pensait que tous les Tutsis le soutenaient. Et je pense que c'est à l'honneur de beaucoup de démocrates Tutsis, finalement.
Chika Kanyuri, rédacteur en chef du magazine Transatlantique, joint à Montréal. En RCA, démission du président de l'ANE, l'Autorité nationale des élections, Dieudonné Kombo-Yaya jette l'éponge alors que le processus électoral censé mettre fin à la transition mise en place après l'abandon du pouvoir par Michel Djotodia entre dans sa dernière phase. On l'écoute au micro de Félix Yepassis Zembrou.
Écoutez, j'ai démissionné parce que je pense que le délai qui est imparti aujourd'hui pour organiser les élections n'est pas tenable. Vous vous rappellerez que nous avions préparé à l'époque un premier chronogramme qui n'avait pas été exécuté pour les raisons que vous savez. Nous avons fait un deuxième chronogramme qui n'a pas non plus été mis en application pour certaines différentes raisons. Alors, le troisième chronogramme n'a pas pu être exécuté non plus. Et aujourd'hui, nous sommes en train de préparer un chronogramme pour aller aux élections et sortir de crise. Et nous avons pensé que ce serait le dernier chronogramme. Mais malheureusement, aujourd'hui, le politique s'en mêle.
Dieudonné Kombo-Yaya, président sortant de l'ANE. Et pour terminer, actualité américaine, qui sera le prochain président de la Chambre basse du Congrès des États-Unis? Jusqu'à hier, tous les regards se portaient sur l'actuel leader de la majorité républicaine, le représentant Kevin McCarthy. Mais à la surprise générale, l'intéressé a jeté l'éponge sans préavis, chez Rubin Dorsil.
Le processus devant conduire au choix du successeur de John Boehner est maintenant plus incertain que jamais. Kevin McCarthy était le clair favori. Cependant, d'autres républicains, dont des ultra-conservateurs, avaient publiquement annoncé leur opposition à son éventuelle élection. Pour le député Charlie Dent de la Pennsylvanie, McCarthy doutait qu'il pût obtenir les 218 voix nécessaires à la Chambre, d'autant qu'un groupe de 40 conservateurs, baptisé Bloc de la Liberté, s'est solidarisé avec un autre candidat, David Webster de la Floride.
Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.